J'ai reçu ton ordinateur.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Puce à l'oreille. En 15 minutes chrono, l'informatique et ses concepts nébuleux sont rendus simples, concrets, pratiques, accessibles. Sur un temps ludique, on explore les différentes possibilités offertes par le numérique et surtout, on les dépasse pour imaginer un horizon virtuel plus désirable. Métavers par-ci, métavers par-là. Souvenez-vous, tout commence en octobre 2021, quand Mark Zuckerberg, à grand renfort de réalité virtuelle et d'avatar animé, rebaptisait le groupe Facebook du nom de Meta. Depuis cette annonce, et celle de l'investissement de plusieurs milliards de dollars dans ce qu'il considère être l'Internet du futur, le mot est sur toutes les bouches. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le métavers, monde parallèle rêvé, tour à tour science-fictionnel, pratique, utopique ou au contraire relevant du cauchemar, est loin de faire l'unanimité. Dans ce tohu-bohu numérique, mêlant casque VR, crypto-monnaie, publicité immersive et divertissement à gogo, un thème se détache, celui du travail, et pour cause. Confort du distanciel, interactivité, collaboration seraient les maîtres mots de cette nouvelle façon de travailler. Mais si elle est présentée comme révolutionnaire, on peut se demander si elle n'est pas simplement l'arbre qui cache la forêt. Alors, pour réfléchir à cette thématique, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans La Puce à l'oreille Laurence De Villers, professeure en informatique appliquée en sciences sociales à la Sorbonne et spécialiste des interactions humains-machines. Alors, le métavers, une formidable opportunité de créativité, d'innovation et de confort, ou bien un enjeu éthique et de souveraineté européenne? Et si ce n'était pas tout cela à la fois? Réponse dans ce 15e épisode de La Puce à l'oreille. Bonne écoute! Mais tout d'abord, retournons à la racine. Et quoi de mieux qu'un brin d'étymologie? Métavers est la contraction de méta, signifiant en grec « au-delà », et du mot « univers ». Utilisé pour la première fois en 1992 par Neil Stephenson dans l'œuvre de science-fiction « Le samouraï virtuel », l'auteur y décrit un monde dans lequel le héros puise sa force dans un monde parallèle high-tech, source inépuisable de connaissances. Et pour désigner ce nouveau monde, les mots ne suffisent pas. Il faut donc l'inventer. Ce sera métavers. Mais alors aujourd'hui, c'est quoi en fait le métavers, Laurence De Villers? On n'a pas fait exprès pour la rime, promis, juré.
Mais je dirais que c'est un univers virtuel dans lequel on va réaliser des tâches, on va rencontrer des personnes en mode immersif. Alors il y a plusieurs façons d'imaginer ce mode immersif. Donc totalement, par exemple, avec des casques de réalité virtuelle comme Oculus, hein, avec une possibilité de retour haptique, de toucher des choses avec des gants et d'avoir un retour de force, quoi, de ce qu'on touche. Et peut-être d'autres capteurs bientôt sur des vêtements, des senseurs, qui pourraient nous laisser imaginer qu'en fait, c'est notre corps finalement qui est une interface avec une sorte d'endroit comme Internet.
Au-delà de cette expérience très immersive qui peut rappeler l'univers mis en scène par Spielberg dans le film Ready Player One, le métavers se décline également de façon plus légère.
L'autre possibilité, c'est juste une augmentation de la perception humaine. Donc on superpose aux perceptions humaines naturelles un rendu en plus, en temps réel, avec des lunettes, des projecteurs, un écran mobile.
D'où l'expression d'aller au-delà de la réalité grâce à un arsenal technique moins lourd. On peut utiliser des lunettes connectées, à l'écran portatif, en passant par les lentilles de contact. Il sera alors possible d'avoir des informations en temps réel sur notre environnement. Taux d'humidité de l'air, nombre de pas que l'on parcourt dans la journée, distance d'un point A à un point B en temps réel, traduction également en temps réel. On peut absolument tout imaginer. Et pour Mark Zuckerberg, cette nouvelle réalité dans laquelle le numérique est partout, eh bien ce n'est rien de moins que l'Internet de demain. Et surtout, c'est le futur du travail.
Donc, c'est des environnements virtuels collaboratifs. Et Meta, Facebook, pousse pour que ce soit l'Internet de demain. C'est-à-dire une façon soit d'aller travailler à plusieurs, soit de rencontrer pour ses loisirs différentes personnes. Maintenant, est-ce qu'on va travailler dans le métavers ? C'est ce que prône Microsoft, par exemple, qui voudrait qu'effectivement on utilise ces environnements pour, par exemple, bâtir un bâtiment ensemble ou un véhicule, piloter, apprendre à piloter en virtuel avant d'arriver dans le réel, comprendre, je sais pas, de la finance, mais aussi beaucoup d'applications vont être plutôt liées aux loisirs, les jeux vidéo, des rencontres. On peut imaginer aussi des mythiques, des rencontres qui sont plutôt distrayantes. Et donc, ça ouvre beaucoup de possibles, mais également beaucoup de risques.
Et oui, des risques, comme toujours, il y en a avec les outils du numérique, et notamment pour la santé mentale. Nous connaissons déjà le potentiel addictif des jeux vidéo ou des écrans. Je sens que vous voulez un exemple. Eh bien, en voici un. En modifiant toutes nos perceptions, une immersion prolongée en réalité virtuelle sollicite notre oreille interne de façon inhabituelle, provoquant des réactions physiologiques inattendues. Laurence De Villers revient également sur la fatigue liée au visio. Pas sûr que le problème s'arrange avec le métavers. Il risque même plutôt de s'aggraver.
Je vais beaucoup plus loin que la fatigue sous Zoom, pour laquelle il est facile de débrancher et il est facile de finalement mettre un mute ou d'expliquer que bon, on sera plus performant si on en fait un peu moins. Dans le métavers, j'ai l'impression qu'on est plus emprisonné.
Au-delà de ces inquiétudes, le métavers pose aussi de nombreuses questions éthiques, comme le souligne la chercheuse.
Finalement, si je me comporte mal dans le milieu du métavers, est-ce que ça aura des répercussions sur le réel ? Quel va être ce mélange entre réel et virtuel, puisque le virtuel continue, hein, c'est deux vies parallèles.
Ainsi, les problématiques rencontrées sur les lieux de travail pourraient se prolonger dans le métavers. Embauche, création d'un environnement propice à l'échange, organisation des informations, gestion des problématiques de harcèlement, autant de questions qui vont se poser aux directions des ressources humaines et à plus large échelle, à toute la société.
J'ose espérer que dans un esprit européen, nous aurons suffisamment de capitaux européens pour innover correctement, sachant que je pense que c'est une innovation, hein, évidemment, hein, mais que le niveau d'éducation n'est pas suffisant et la frilosité des industriels à finalement investir dans le métavers n'est pas avec la bonne vision de ce qu'on devrait faire. Il y a, à mon avis, à mutualiser les efforts, à mutualiser la façon dont on peut comprendre comment ce métavers va se déployer, quels sont les risques et quels sont les avantages.
Les avantages, eh bien, parlons-en. Pour que le métavers paraisse aux yeux de tout un chacun utile, le groupe Meta s'emploie à vanter les mérites d'une telle innovation dans ce qu'elle aurait de pratique, notamment concernant le travail à distance et la collaboration. Mais pour Laurence De Villers, il est impératif de nuancer.
Cet argument choc de dire que le futur du travail dans le métavers est une évolution, une innovation positive, c'est à mon avis la meilleure façon de vendre le fait que l'on va avoir un métavers qui se développe. Mais n'oublions pas que le principal gain va être pour les loisirs, le sexe, etc. Donc, camouflé derrière cette idée que ce sera extraordinaire pour le travail, il y a donc tout le commerce et la prise en compte de votre attention pour vous envoyer des publicités ou vous faire changer d'opinion qui est derrière. Donc, ne pas croire qu'il n'y a pas cette manipulation derrière le fait de propulser le travail en première ligne. Maintenant, il est évident aussi que travailler à distance partiellement peut être intéressant et peut-être que le métavers est un meilleur outil que Zoom. Donc, c'est une équation. Voilà. C'est un équilibre à trouver. Et je pense qu'il va falloir faire des études, comme on appelle ça, des bacs à sable, en grandeur, en mettant X milliers de personnes, X centaines de milliers de personnes connectées, pour comprendre la pénibilité, la vulnérabilité et le coût énergétique de tout ça.
Et elle rappelle également cette vérité fondamentale.
Je pense que l'équilibre de notre intelligence collective nécessite qu'on se voit physiquement. Et il est vraiment important que l'on pense que non seulement on a des valeurs et des biens communs, et qu'il faut préserver, mais parmi ces biens communs, il y a l'interaction sociale. Directe, humain-humain. C'est un bien commun. C'est comme ça qu'on fait naître, finalement, beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination et beaucoup d'entraide et de solidarité. Et c'est à cet enjeu-là, il ne faut pas le négliger. Alors, dans le métavers, on sera capable de créer des choses aussi. On va faciliter un certain nombre d'interactions, puisque d'un bout à l'autre de la planète, on va pouvoir se voir facilement, sans dépense d'énergie, en prenant un avion pour aller en Australie ou je ne sais où. Donc, bien évidemment, on va aussi réduire le coût des transports. Mais en cela, il n'y a pas une seule réponse. Il y a, à mon avis, à comprendre à chaque fois l'équation d'énergie qui est derrière.
Car si le recours à ce dispositif peut sembler pertinent de prime abord, attention à ne pas foncer les yeux fermés. De nombreuses zones d'ombre restent à éclairer, notamment en ce qui concerne la consommation énergétique. C'est ce qu'évoquait Laurence de Villers à l'instant, et elle revient dessus.
Alors, dans le métavers, on sera capable de créer des choses aussi, on va faciliter un certain nombre d'interactions, puisque d'un bout à l'autre de la planète, on va pouvoir se voir facilement, sans dépense d'énergie, en prenant un avion pour aller en Australie ou je ne sais où. Donc, bien évidemment, on va aussi réduire le coût des transports. Mais en cela, il n'y a pas une seule réponse. Il y a, à mon avis, à comprendre à chaque fois l'équation d'énergie qui est derrière l'apport du métavers. Combien de temps pour comprendre aussi la vulnérabilité de l'humain et puis la dépense d'énergie.
Eh oui, car si le métavers peut nous éviter de prendre l'avion, on estime que les émissions de gaz à effet de serre générées par ce secteur seraient équivalentes à celles du secteur du numérique. Un secteur qui, on ne vous apprend rien, est en pleine expansion. À ces émissions, vous trouverez dedans tout ce qui concerne l'extraction des ressources et l'utilisation de l'énergie nécessaire à leur fabrication. La consommation d'énergie nécessaire au bon fonctionnement de ces appareils, mais également des serveurs où sont stockées toutes les données du web, comme le souligne un site internet qu'on vous invite à découvrir, qui s'appelle « Ma data et moi ». Tiens, et pour plus d'informations sur le sujet, on vous renvoie également à l'épisode 4 de La Puce, réalisé avec Serge Habitboul au sujet des data centers. Mais y a-t-il une autre limite, Laurence de Villers ?
L'accessibilité par tous, parce que tout le monde ne pourra pas profiter de ces interactions. Donc, est-ce que ce clivage dans la société est un réel? Comment on va faire pour doter tout le monde de la possibilité d'aller sur ces environnements si on décide de les utiliser beaucoup, hein? Et puis, il y a un grand sujet derrière tout ça, c'est l'éducation. Et l'éducation au risque du métavers ainsi qu'aux bénéfices, je ne le vois pas envisagé à l'école. Or, c'est à l'école qu'il faut prévoir que les futures générations vont le construire vraiment. Et c'est à eux qu'il faut expliquer ce qu'on imagine comme risque et comme évolution, pour que derrière, il y ait des ingénieurs et des femmes aussi, de plus en plus de femmes qui aillent dans ces métiers. Moi, je souhaite que ce soit réellement en mixité, pour qu'on apprenne qu'il faut prendre soin des humains à travers ces objets.
De telles innovations ne sont pas sans conséquence, on le voit bien, et il est sans doute urgent de se pencher sur la façon dont le métavers risque de bouleverser les codes sociaux, l'environnement et peut-être même notre rapport au monde. Comme le dit si bien Laurence de Villers,
les conséquences pour l'humain, pour la société et pour l'écologie doivent être considérées les trois ensemble.
Les innovations liées au métavers sont en marche. Et comme toujours, quand il s'agit de technologie, tout va très vite. Parfois tellement trop vite qu'on se retrouve quelques années plus tard face à des phénomènes qu'il est bien difficile de maîtriser, comme les fake news ou encore le cyberharcèlement. Ne faisons pas les erreurs du passé et questionnons les usages. Le maître mot dans tout cela, vous l'aurez compris, c'est l'éthique. Alors, à quand des cours d'éducation et d'éthique numérique? Eh bien nous, on vous dit ça, on vous dit rien. On vous met juste la puce à l'oreille. Pour en savoir plus, deux lectures. D'abord, le livre de Laurence de Villers, « Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout cela », éclairant sur les conséquences inquiétantes que pourraient avoir ces machines et interfaces numériques capables de détecter nos émotions. Et dans un autre genre, le roman de science-fiction « Le samouraï virtuel » écrit par Neil Stephenson, créateur de ce mot devenu si familier et bientôt peut-être omniprésent. Je suis Sophie Comte, cofondatrice de Chute Magazine et de Chute Radio, et je suis ravie d'avoir prêté ma voix à Swarma. Ce podcast a été écrit par la journaliste Nolwenn Mogwen. Nous remercions également notre sponsor, l'assureur AXA. Pour écouter les prochains épisodes, tapez la puce à l'oreille dans votre plateforme d'écoute et même Chute Radio pour découvrir toutes nos émissions. À bientôt !